Je vous invite maintenant à suivre la lecture de trois textes des évangiles. Le premier est emprunté à l'évangile selon Luc, au chapitre 2, et il s'agit du verset 40. Luc 2, verset 40. L'enfant, et il s'agit de l'enfant Jésus, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Un second texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 3, et à partir du verset 13. Évangile selon Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Enfin, un dernier texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2 et au début de ce chapitre, Évangile de Jean, chapitre 2, les deux premiers versets. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Que le Seigneur nous aide à marcher sur les traces de cet enfant qui a grandi, qui a été baptisé et qui a été invité à la fête de la vie. Amen.
Bonjour à tous, bon sabbat et bonne année. Tous mes vœux de bonheur, c'est-à-dire de santé, de prospérité, mais surtout de spiritualité. Comment annoncer Jésus-Christ aujourd'hui ? Voilà une question qui résonne à nos oreilles ce matin, et ce, de façon diverse et probablement contrastée. À la fois comme une bonne nouvelle, un message utile, important à délivrer au monde, à notre entourage, mais aussi une surdifficulté. Et nous pensons à toutes ces expériences missionnaires malheureuses où l'incompréhension se mêle souvent à la moquerie. Je me souviens d'ailleurs des paroles jugées absurdes au moment où elles ont été prononcées. C'est l'histoire d'un jeune chrétien adventiste que je connais bien puisqu'il s'agit de mon frère, qui du haut de ses 13 ans, à force de se voir harcelé par ses camarades de classe, mais enfin, pourquoi ne viens-tu jamais à l'église le samedi ? Nous aussi, nous aimerions être dispensés. Vous me suivez ? Et là, la réponse presque acculée de frérot. Je ne viens pas à l'église, à l'école, le samedi, parce que Jésus revient. Réaction, un tollé de rire et de moquerie. Difficulté de l'action missionnaire. Voilà comment nous tanguons entre d'un côté la beauté de l'effort missionnaire et de l'autre la difficulté de ce même effort. C'est un petit peu le chaud et le froid. Et souvent nous avons tendance à ne regarder le verre qu'à moitié vide au lieu de le regarder à moitié plein. Eh bien, permettez-moi ce matin d'essayer de donner des arguments qui nous permettront de regarder ce verre le plus souvent à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide, à regarder la chaleur de la mission plutôt que la difficulté de la mission, la froideur de la mission. Nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Et ce n'est pas n'importe quelle nouvelle. Il s'agit du salut de tout homme, pas que de nous ici, de tout homme, de tous les hommes, depuis le premier jusqu'au dernier, par la foi en Jésus-Christ. Mesurons-nous l'étendue de ce message, la portée de ce message, les conséquences de ce message. Un message extraordinaire. Peut-être qu'à force de le répéter, pour ne pas dire rabâcher, nous passons à côté de cette force, de ce poids, de cette beauté. Aussi, nous pourrions même oser, puisque nous sommes en période de vœux, dire à ceux et celles qui sont à l'extérieur et que nous voulons toucher, que cette année, le Seigneur Jésus-Christ se révèle à vous dans toute sa splendeur et sa bonté. Ce serait une formule de vœux à essayer. Que cette année 2013 vous apporte joie, amour, paix, bonheur, grâce à Jésus-Christ. Ne soyons pas timorés, complexés, parce que la société, parce que le postmodernisme, parce que la sécularisation, non, disons simplement, nous n'avons rien à cacher, nous n'avons honte de rien. Il suffit simplement d'oser, parce que le message est beau, qu'il en vaut la peine. Il y a là un paradoxe, en fait. Entre d'un côté la beauté, la richesse, la hauteur, la profondeur du message, et d'un autre côté la tiédeur. Prenons un exemple ce matin. Nous sommes contents, l'assemblée est presque pleinement remplie. Et d'ailleurs, nous mesurons depuis quelques mois une certaine progression dans cette communauté. C'est bien, alléluia, gloire à Dieu. Mais permettez-moi de vous dire que c'est presque ridicule. Nous sommes ce matin 190, 195, peu importe. Mais nous sommes combien dans cette commune? Combien d'habitants à Damary-les-Lys? Le savez-vous? Combien? Combien, Laurent? À peu près 20 000. Nous sommes 100, 200, tout au plus. Faites le rapport. Imaginez-vous le nombre de personnes qui, à l'extérieur, certes connaissent Jésus-Christ, connaissent le nom, ont entendu parler, ont vu à la télévision de vieilles messes ou que sais-je encore, mais qui ne connaissent pas le message que nous, nous avons eu la grâce d'accepter parce que Dieu, parce que Jésus s'est manifesté à nous. Alors allons, sans complexe, chaud, regardant la beauté de ce qu'il y a à annoncer. Bien sûr, nous pourrions répondre qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Bien sûr, nous pourrions répondre que la voie de la perdition est large, alors que celle du salut est petite et sinueuse, comparable à une voie de montagne. Bien sûr, nous pourrions dire que nous ne faisons pas bien notre travail parce que trop libéral ou trop conservateur. Et il y aurait tout un tas de raisons que nous justifierons souvent bibliquement pour ne pas aller, tout simplement, permettez-moi de le dire, pour essayer d'enfouir au plus profond de notre être les réticences missionnaires qu'à tort ou à raison nous nourrissons. Alors que faire? Que faire pour, et nous savons que cela se réalisera, puisque c'est prophétisé, annoncer au monde cette belle, ce beau message, cette belle annonce, ce beau message. Eh bien, regardons à Jésus. Le premier texte, et je crois que c'est par là que tout commence, un texte qui nous dit que Jésus croissait en stature et en grâce. Permettez-moi de voir deux orientations à cette croissance. D'abord la stature, comme un enfant grandit physiquement, corporellement. Jésus grandissait de la sorte, mais il y a aussi un pendant, un corollaire indispensable, incontournable, la grâce, c'est-à-dire la foi, c'est-à-dire la spiritualité, c'est-à-dire un rapport particulier avec l'Esprit Saint, si nous allons au bout des choses. Jésus petit grandissait aussi dans ce domaine-là. Et je crois qu'il y a là le secret d'une mission décomplexée. Nous sommes partis il y a quelques semaines, quelques jours de cela. Pour certains d'entre nous, ce fut mon cas et celui de ma famille. Chez nos parents, chez nos amis peut-être, parce qu'il y avait un moment important, les fêtes de fin d'année, et particulièrement la fête de Noël. Et pour certains d'entre nous, beaucoup, majoritairement je le crois, il y avait dans les maisons un arbre de Noël. Et il y avait soit le 24 à minuit, soit le 25 au matin, des cadeaux qui ont été posés au pied de l'arbre de Noël. Et qu'avons-nous fait chacun probablement à ce moment-là? Nous nous sommes réveillés avec l'idée qu'un cadeau nous attendait. Et nous sommes allés, certes pour accompagner nos enfants et vivre avec eux la joie qui était la leur à ce moment-là, dirons-nous. Mais nous sommes allés aussi pour nous, au pied de cet arbre, pour ouvrir les paquets et découvrir ce qui se cachait à l'intérieur. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes retournés en enfance. Et d'ailleurs, ce que je dis des cadeaux de Noël, je pourrais le dire du réveillon, je pourrais le dire du 25, et je pourrais le dire de tout ce qui constitue les fêtes de fin d'année. Nous sommes retournés dans le passé. Retour vers le futur, pour reprendre le titre d'un film hollywoodien fameux. Nous avons replongé le temps des fêtes de fin d'année dans la nostalgie du passé. Et ça nous a fait du bien. Ça nous a fait tellement de bien que nous nous projetons déjà dans la fête de l'année prochaine. Si nous voulons être des missionnaires décomplexés, c'est-à-dire aguerris, c'est-à-dire efficaces, il nous faut aussi retourner aux sources. Être des missionnaires nostalgiques, qu'est-ce que je veux dire? J'en reviens à Jésus. Jésus grandissait en stature et en grâce. Jésus de tout petit, et peut-être d'ailleurs depuis le ventre de sa mère, je dis d'ailleurs, c'est certainement, était habitué à la présence du Saint-Esprit. Jésus était un être de foi. L'Esprit était pour lui non pas une idée, une conviction, une vérité, une théologie, l'Esprit était une réalité. Jésus vivait dans une expérience continue, permanente avec l'Esprit. Et ce qui est valable de Jésus l'enfant, ou pour Jésus l'enfant, l'est pour chacun de nos enfants aujourd'hui et des enfants que nous avons été. Vous avez remarqué qu'il y a chez l'enfant une acuité spirituelle particulièrement développée. L'enfant croit presque naturellement, d'où l'importance de l'éducation religieuse. Pourquoi devons-nous nous occuper dans les premières années des enfants du point de vue religieux? Parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont le plus respectifs. La religion est naturelle, l'enfant est naturellement ouvert aux choses qui viennent d'en haut. Et lorsqu'on les lui propose, il les accepte. Et dire qu'il les accepte, c'est dire qu'il les expérimente. Avec le temps, va tout s'en va, et la foi aussi. Mais ce que l'enfant n'oubliera jamais, pour peu qu'il ait été éduqué, c'est cette nostalgie de l'expérience avec Dieu. Nous avons besoin, pour être des missionnaires décomplexés, aguerris, efficaces, de vivre la Noël ou le Noël missionnaire. Souvenir, puisque nous avons été éduqués, que grâce à cette éducation, nous avons expérimenté la présence de Dieu dans notre vie. La mission, nous donne la possibilité de ressusciter cette nostalgie du passé, de la réactualiser, de la vivre de nouveau. La mission nous fait du bien. Dès lors, nous regardons bien plus la beauté de la chose. Nous regardons bien plus le verre à demi plein que l'inverse. Nous pourrions, pour préciser le discours, dire que la mission chrétienne permet à l'expérience passée, vécue avec Dieu, de basculer de l'innocence dans la maturité. Alors, n'hésitons pas. Allons de l'avant. Faisons-nous du bien. Retrouvons le goût de la relation, de l'expérimentation de Dieu par l'élan missionnaire. Il est vrai que lorsque nous nous livrons à l'exécution de l'ordre de mission donné par Jésus lui-même juste avant de s'en aller, nous sommes quelque part obligés de retourner aux sources, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est la perception de la difficulté de cette tâche. Il suffit de mesurer aujourd'hui la mentalité ambiante, post-modernité, sécularisation, voire même athéisme, pour intégrer une idée de la difficulté qui nous incombe dès lors que nous professons Jésus-Christ. Mais cette difficulté est salvatrice. Plus nous nous sentons petits du fait de la difficulté, plus nous nous sentons incompétents, et plus nous allons au pied de la croix, et plus nous retrouvons cette mentalité de l'enfance, cette expérience avec le Christ, voilà comment la mission nous invite à vivre une authentique, une véritable spiritualité, religiosité dans le sens latin du terme, être relié avec le monde d'en haut, avec Dieu. Une autre difficulté ou un autre élément de l'analyse missionnaire qui nous invite à renouer le contact avec Dieu, c'est la hauteur de la tâche. Nous avons dit que le message était beau, que le message était grand, que le message était important, il sauvait ceux et celles qui, par la foi, acceptaient Jésus-Christ. Lorsque nous prenons conscience de cela, nous comprenons que ce message dépasse notre simple intelligence et la pertinence de notre rhétorique, la pertinence de notre discours, de notre théologie. Nous comprenons que seul Dieu peut convaincre ceux et celles vers qui nous nous tournons, et nous nous réfugions là aussi vers lui pour n'être finalement que des canaux, des transmetteurs d'énergie divine, de messages divins. Nous devenons tout simplement de véritables prophètes. Enfin, il est un troisième élément qui, me semble-t-il, nous invite à revivre l'expérience que l'enfance nous avait donnée naturellement avec le Seigneur. C'est la dignité de cette tâche. Qu'est-ce que nous sommes ? Mais qu'est-ce que nous sommes ? Pour pouvoir collaborer avec le Créateur, nous étudions cela pendant ce trimestre. Avec celui qui est au-dessus de tout, avec celui qui a créé non seulement notre univers, mais les univers. Et aujourd'hui, dans le domaine de l'astrophysique, on parle des multivers, des milliards et des milliards d'univers. Bref, l'infini. Lorsque nous comprenons la dignité qui nous est conférée, donnée, lorsque nous sommes invités par ce Créateur à collaborer avec lui, eh bien, je le crois, fier de cette collaboration, touché par l'honneur qui nous est fait, nous nous agenouillons et demandons à Dieu de nous qualifier au mieux, pour nous acquitter au mieux de la tâche qu'il nous a confiée. Vous remarquerez, et j'en conclus avec cette première partie d'argument, que la mission rime toujours avec expérience avec Dieu. Il suffit pour cela de lire le livre des Actes des Apôtres. Oui, Paul est un grand missionnaire. Oui, Pierre est un grand missionnaire. Oui, tous les autres sont des grands missionnaires. Pas du tout. Ils sont tous de très bons écoutants. L'Esprit de Dieu leur dit, va ici, va là-bas, tourne à droite, tourne à gauche, et ils écoutent. Et parce qu'ils écoutent, ils réussissent leur mission. Peut-être qu'une des difficultés, c'est la capacité que nous avons à retourner en enfance. Finalement, pour réussir la mission que le Seigneur nous confie, il nous faut redevenir des enfants. Et la caractéristique principale d'un enfant, me semble-t-il, ou l'une des caractéristiques principales de l'enfant, c'est de croire, envers et contre tout, ce que dit le père, ce que dit la mère. Vous pouvez dire à un enfant en bas âge que vous êtes capable de toutes les prouesses, il vous croira. Et il sera même déçu s'il vérifie tôt ou tard, et tôt ou tard il le vérifiera, que vous n'êtes pas capable de tout. Vous vous souvenez, lorsque les disciples veulent barrer le passage de Jésus aux enfants qui, conduits par leurs parents, viennent à lui. Jésus leur répond, ne laissez pas, n'empêchez pas ces petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et je veux croire qu'un bon missionnaire est forcément déjà une anticipation que ce que nous serons tous dans le royaume des cieux, c'est-à-dire des enfants. Renouons avec ce que notre éducation chrétienne nous a appris, nous a permis d'expérimenter, pour transplanter tout ça sur le domaine de la mission. Regardons ce domaine comme une chance capable de nous permettre de ressusciter, je disais, cette expérience spirituelle avec l'Esprit Saint, pour vivre et ne voir dans l'élan missionnaire que la beauté, que le chaud, que le bon. Mais la vie du Christ, qui, me semble-t-il, n'est qu'un parcours missionnaire, ne se limite pas au temps de l'enfance. Il y a un moment particulièrement important en termes d'émission dans la vie de Jésus-Christ. Je veux parler du baptême et nous avons ce matin lu le texte. Voilà un thème que nous connaissons bien, un moment peut-être aussi que nous connaissons bien, parce que beaucoup d'entre nous ici l'ont expérimenté, et certains cette année encore s'apprêtent à l'expérimenter, le baptême, le passage par les eaux baptismales. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit là du départ officiel de la mission de Jésus-Christ. Et s'il s'agit là du départ, il s'agit là d'un temps important, d'un temps qui va conditionner tout le reste. Essayons de réfléchir ce matin à ce qui, en termes de mission, donne toute sa pertinence au baptême de Jésus-Christ. Je crois qu'il y a deux points sur lesquels nous devons nous arrêter. Tout d'abord, c'est cette parole curieuse, énigmatique, voire mystérieuse, que prononce le Christ quand il veut évacuer la réticence du Baptiste. Jean, voyant le Christ arriver vers lui, comprend qui il a en face de lui et se refuse dans un premier temps à baptiser celui-là. Et Jésus répond, il est bon que toute justice soit accomplie. Qu'est-ce que la justice dans le contexte de Jésus-Christ? La justice, c'est l'accomplissement de la loi. C'est l'accomplissement de la Torah. La Torah comprise non pas seulement comme le décalogue, les 10 commandements, mais comme l'ensemble de la révélation écrite de ce temps, c'est-à-dire une bonne partie des écrits de l'Ancien Testament. Si ce n'est toute partie de l'Ancien Testament. La révélation, la Torah, est l'expression de la volonté de Dieu, et la justice correspond à l'accomplissement de cette volonté révélée par l'écrit. Aussi, quand Jésus dit qu'il est juste de passer par les eaux baptismales, il dit simplement qu'il va porter sur lui, à partir de maintenant, le joug du Père. Il s'engage à n'accomplir dans sa vie officiellement uniquement la volonté du Père, exclusivement la volonté du Père. Je crois qu'il y a là le premier élément fondateur de la réussite de la mission du Christ. Le Christ a été capable de s'humilier pleinement, c'est-à-dire de s'oublier pleinement. Et il nous dit cet oubli, cette humilité au moment de son baptême, en déclarant que cet acte est juste, comprenant qu'il correspond au port, à l'attachement de la volonté du Père et à l'application dans la vie du Christ que de cette volonté. On comprend dès lors pourquoi le Christ a réussi sa mission, et nous comprendrons aussi pourquoi l'Église, qui est la réunion des disciples du Christ, réussira sa mission. L'Église étant la somme des baptisés, de ceux qui, comme le Christ, au moment même où ils sont passés dans les eaux baptismales ou par les eaux baptismales, ont pris sur eux le joug de la volonté du Père. Mais rassurez-vous, c'est Jésus qui le dit, le joug est doux et le fardeau léger. En effet, devons-nous parler de joug des lourds que nous parlons d'assumer, d'accomplir la volonté de Dieu dans notre vie, et notamment la volonté missionnaire de Dieu pour notre vie? Il ne s'agit pas d'un poids, il ne s'agit pas d'un fardeau, il ne s'agit pas d'un boulet que certains prisonniers ou bagnards traîneraient à leurs pieds. Il s'agit d'un message de grâce. Il s'agit d'une puissance à nos côtés. Il s'agit de légèreté. Il s'agit de bonheur. Voilà comment le Christ et pourquoi le Christ a voulu assumer cette volonté. Certes, ne soyons pas angéliques. Il y aura des moments où notre volonté propre va s'opposer à celle révélée de Dieu qui nous conduit par tel chemin ou tel autre. Et ça a d'ailleurs été le cas de Jésus-Christ, rappelons-nous le fameux jardin de Gethsémané. Si cette coupe pouvait être écartée de moi, mais in fine, parce qu'il avait au moment du baptême fait le pari fou de n'accomplir dans sa vie que la volonté du Christ, même lorsque les pires limites se sont proposées à lui, il les a assumées, car ce n'est pas lui qui vivait, c'est Dieu qui vivait en lui. Et c'est là, je le crois, la logique qui s'applique pour chacun de nous dès lors que nous sommes passés par les eaux du baptême. Et il y a un autre argument tiré de ce baptême christique en rapport direct avec la mission. Je m'arrêterai maintenant sur le mouvement induit par ce baptême. Le Christ rentre dans quoi? Dans quoi êtes-vous rentré? Lorsque c'est par ce baptistère, ou comme ça a été mon cas, de rivière du sud de la France. Dans les eaux. Les eaux sont, dans certains passages des Écritures, synonymes de bénédiction, synonymes de vie. Mais souvent, dans les sociétés antiques et bibliques, les eaux sont symboles de mort. Et nous pensons aux inondations qui, à ces époques comme aujourd'hui, déferlaient sur certaines contrées et ravageaient toute vie sur leur passage. D'ailleurs, dans la symbolique biblique, les eaux sont souvent le synonyme, le symbole des peuples opposés à Dieu. Lisez pour cela l'Apocalypse de Jean et vous vérifierez l'allusion. Bref, quand le Christ passe par le baptême, il va rentrer dans des eaux troubles. Il va rentrer symboliquement dans une humanité perdue, pécheresse. Il assume, il accepte toutes les vilenies, tous les péchés. Il s'associe à cela, il entre dans cela. Mais Jésus va-t-il rester dans les eaux ? Non, il ressort des eaux. Et c'est là que je vais coller à l'image au plus loin que je peux. J'aime imaginer Jésus qui sort et forcément trempé. J'aime imaginer Jésus avec un linge probablement trempé. Et Jésus qui ressort et qui va jusque sur le rivage. Et nous imaginons toutes les gouttes d'eau qui tombent de son corps et qui, grâce à son transport, sont déposées sur des rivages ensoleillés, éclairés, apaisés, porteurs d'espérance. Le baptême de Jésus, quand on en considère le mouvement, est un baptême à portée missionnaire. Il va dans le monde, il s'associe au monde, il se mélange au monde. Jésus fréquentait des prostituées qui se sont converties grâce à lui. Jésus fréquentait des collecteurs d'impôts, c'est-à-dire en 39-45, des collaborateurs qui se sont convertis grâce à lui. Jésus fréquentait des gens de mauvaise vie qui se sont convertis grâce à lui. Il est allé pour cela et pour tous ceux qui ont bien voulu l'accepter jusqu'au plus profond des eaux. Il en est ressorti et il les a déposés dans un nouveau pays, sur un nouveau rivage, le royaume de mon Père. Ne croyez-vous pas que c'est aussi notre mission dès lors que nous passons par les eaux du baptême? Nous sommes aussi invités à aller dehors, à ne pas rester qu'entre nous et à nous surprotéger, nous aseptiser. Non. Il y a un risque dans la vie du chrétien. Il y a un risque dans l'élan missionnaire. C'est le risque issu de la collaboration avec le milieu ambiant, qui est un milieu hautement méchant, hautement pécheur. C'est un milieu déchu. Mais c'est à ce prix-là que lorsque l'on revient dans ce lieu, pourquoi pas, comprenons, lorsque nous intéressons par le témoignage que nous rendons, lorsque nous sommes immergés dans la société, le témoignage d'un Jésus actif, d'un Jésus intéressant, utile pour notre vie, que nous pouvons alors attirer comme des sortes de gouttes d'eau, ceux et celles qui nous ont vus ainsi témoigner, et que nous pouvons les conduire sur ces rivages ensoleillés, sur ces rivages pleins d'espérance. Je ne puis m'empêcher de vous rappeler l'action missionnaire qui est la nôtre dans quelques mois, au mois d'avril. L'opération André, lance-toi pour Christ, c'est le cas de le dire. Réfléchissez dès à présent à ceux et celles que vous pourriez inviter pour ces conférences. Priez déjà pour elles. Allez vers ces personnes, collègues de bureau, membres de votre famille, voisins, voisines, que sais-je, peu importe, dont vous imaginez que par le jeu d'une relation, d'une amitié, vous pouvez profiter de cette occasion pour leur parler de Dieu et les sensibiliser. C'est aussi une façon d'entrer dans les eaux et de sortir des eaux, comme Jésus l'a fait. Enfin, un dernier point, parce que le temps m'échappe. La première chose que Jésus a faite, dès lors qu'il entre en mission, c'est la justification du troisième texte, les noces de Cana. C'est quand même assez curieux. Jésus est baptisé, il va dans le désert, et si l'on en croit l'évangile de Jean, il commence à désigner quelques jeunes gens qui deviendront ses disciples, et la première chose qu'il fait avec eux, c'est les emmener dans un mariage. Voilà comment Jésus va commencer sa mission. Nous pourrions dire que Jésus est un petit roflant. En effet, quand on comprend les mariages de l'époque, il ne s'agit pas que d'une journée ou que d'une soirée qui se prolonge tard dans la nuit. Il s'agit de plusieurs jours, des fois de semaines. Et si j'en reviens à la noce de Cana, Jésus va réaliser un miracle que vous connaissez bien et qui nous invite à penser qu'il est resté jusqu'au bout, puisque c'est au moment où on manque de vin qu'il va transformer l'eau en vin. Jésus profite, Jésus prend le temps. Avant de s'engager dans la mission, il va passer un moment de convivialité avec ses disciples. Mais que cherche à faire Jésus? Ça paraît évident. Pensez au Paris Saint-Germain. Pour ceux qui aiment bien le foot, sachez que le Paris Saint-Germain a recruté à coups de millions d'euros parmi les joueurs les plus prestigieux de notre planète, je pense à ce fameux Zlatan. Or, jusqu'à encore il y a peu, mois d'octobre, novembre, le Paris Saint-Germain, malgré toutes ses recrues, jouait très mal. Il était même descendu à la troisième ou quatrième place du championnat. Et il y a eu un moment particulièrement important. Tous les joueurs, avec l'entraîneur, se sont retrouvés dans un restaurant parisien. Et là, de façon inopinée, un chanteur que personne n'attendait, à savoir Enrico Macias, était là, sa guitare, le Paris Saint-Germain. Et voilà que la soirée s'est passée dans une bonne ambiance, très familiale, quelque part les noces de Cana. Les joueurs du Paris Saint-Germain se sont sentis unis et donc mobilisés. Ils sont passés d'une relation distanciée, peut-être méprisante, considérant les écarts de salaire des uns envers les autres, à une relation de solidarité, de partenariat. Et du coup, sur le terrain, nous voyons aujourd'hui une toute autre équipe. Une équipe qui, quand ça va mal, serre les rangs, resserre les rignes, on dit en football. Et qui, lorsque ça va bien, est capable de produire un jeu magnifique. Je crois que lorsque Jésus a invité pour démarrer la mission et celle de ses disciples, ces mêmes disciples aux noces de Cana, il a voulu créer une équipe. Une équipe qui serait capable, dans les moments difficiles comme dans les moments moins difficiles, de rester unis, de rester solidaires. Car c'est à ce prix-là que l'on accomplit efficacement la mission évangélique. Pour une bonne raison. Comment aller proposer au monde un message de paix, d'amitié, de bonheur, de salut, si déjà nous ne le vivons pas entre nous? Il nous faut rester unis comme les cinq doigts de la main. Malgré les divergences, malgré les différences. Je dirais même plus, il faut faire de ces divergences et de ces différences des outils facilitants. Des forces qui permettent la complémentarité, qui permettent de voir là où on n'avait pas vu et de pouvoir faire tout converger vers le bien, vers le mieux, vers l'accomplissement d'une mission réussie ou l'accomplissement réussi d'une mission. Il n'y a que du beau, il n'y a que du chaud. Vous savez, je n'ai pas fini l'histoire par laquelle j'ai commencé. Dans cette classe, tout le monde s'est moqué de mon frère. Mais il y en a un qui a été interpellé par cette réponse absurde. Et celui-ci, Michel, s'est intéressé. Mais pourquoi tu dis que le Christ revient bientôt? Mais pourquoi es-tu si stupide dans un premier temps? Et mon frère répondait. Jusqu'au jour où ce jeune a voulu venir aussi aux activités auxquelles nous participions. Jusqu'au jour, bien plus tard, 5-6 années plus tard, il passera lui aussi par les eaux baptismales. Dans la mission, il n'y a que du beau, il n'y a que du bon.